Il y a quelque chose dans la personne de Jésus qui attire irrésistiblement. Et c'est ainsi que le stratagème imaginé pour pouvoir échapper à la foule va finalement échouer, puisque les foules vont précéder Jésus de l'autre côté du lac. On peut imaginer la déception ou peut-être l'agacement, voire peut-être même encore la colère de ces apôtres, retournant de mission, harassés, fatigués, heureux de raconter ce qu'ils ont vécu, mais qui ont besoin aussi de repos, et Jésus l'a bien compris, quand ils retrouvent de nouveau cette foule de l'autre côté du lac. D'ailleurs, la suite le montrera, puisque après avoir enseigné longuement cette foule, les apôtres s'approcheront de Jésus pour lui dire « Renvoie-les donc, il se fait tard et ils n'ont rien à manger. » À travers ces paroles, évidemment, perce non seulement une forme d'égoïsme, mais plutôt encore d'agacement. Oui, Jésus attire au point que, quand il disparaît de la vue des hommes, on a encore envie de le retrouver et on se met en chemin. Qu'est-ce qui attire dans sa personne ? Marc nous livre certainement le secret, mais les autres évangélistes également, lorsqu'il dit que Jésus posa sur cette foule un regard de compassion, un regard de pitié. Jésus n'est pas comme nous, il n'est pas impatient. Il lit dans le fond des cœurs la détresse, l'attente profonde, l'attente de vie qui habite tous les cœurs humains. Et c'est pour lui le lieu précisément de la réponse qu'il veut donner. Et c'est ainsi qu'il ne peut pas se contenter de voir cette foule, mais qu'il comprend à quel point cette foule a besoin d'être nourrie, non seulement de sa présence, mais de son enseignement, de sa parole. Cette expression « Jésus fut saisi de pitié » se rencontre dès le premier chapitre de l'évangile de Marc, lorsque un lépreux s'approche de lui et tombe à ses pieds. Il est dit que Jésus fut saisi de pitié en le voyant. C'est cette même expression qu'on retrouvera lorsque Jésus se retrouve subitement devant ce cortège funèbre où il comprend immédiatement le tragique de la situation, une veuve qui enterre le Fils unique. Il fut saisi de pitié. Il fut saisi de pitié, c'est aussi l'expression qu'on trouve, et elle décrit parfaitement le cœur de Jésus, dans la parabole du Samaritain. Lui aussi fut saisi de pitié, contrairement aux prêtres et aux Lévites. Il fut saisi de pitié, c'est le regard que le père de la parabole du fils prodigue, c'est le regard qu'il pose sur son fils qui revient. Nous sentons à quel point ce regard trahit le cœur même de Jésus, c'est-à-dire le cœur même de Dieu. D'ailleurs, lorsque Salomon consacre le premier temple à Jérusalem, il va entendre Dieu lui dire « Mon nom habitera cette maison, mes yeux et mon cœur vont y demeurer. » Nous sentons bien que dans les yeux de Jésus, c'est son cœur qui se révèle. C'est le fond de son cœur, épris d'une seule chose, du salut de tous. Salut de tous qui est si bien mis en exergue dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Salut dont personne n'est exclu, puisqu'il s'adresse non seulement à ceux qui sont proches, mais aussi, et peut-être surtout, à ceux qui sont loin. Personne ne se voit exclu de ce regard de pitié, de compassion, d'amour. Comme Jésus lui-même le dira dans saint Jean, « Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. » S'il y a une chose dont Dieu est incapable, c'est celle-là. Tout cœur humain qui souhaite s'approcher de lui peut le rencontrer. Parce que cette compassion s'adresse profondément à tous. Et Jésus ne cesse, comme son Père, d'espérer en ce retour de l'homme plongé dans la détresse pour toutes sortes de raisons, mais peut-être aussi, souvent, parce que lui-même s'est éloigné de Dieu, celui qui est son véritable centre, le centre même de son existence. Déjà, le prophète Isaïe avait dit que ce prophète annoncé, ce Messie, n'éteindrait pas la mèche qui fume encore, ne briserait pas le roseau froissé. C'était dire déjà à quel point tous nos cœurs abîmés ont leur place dans le grand cœur de Dieu. Ce cœur que Jésus lui-même a décrit en parlant de lui, mais quand il parle de lui, inévitablement aussi il parle de son Père, un cœur doux et humble, un cœur qui justement bannit toute forme de dureté, d'exclusion, de jugement. Un cœur qui n'a qu'une seule passion, celle de sauver. Et c'est ainsi que Jésus apparaît vraiment comme ce bon pasteur que nous présentait Jérémie. Jérémie, justement, qui fustige les mauvais pasteurs, mais qui annonce ce pasteur unique, ce fameux bon berger, qui est prêt à abandonner tout son troupeau pour une seule de ses brebis. Il est fou, au fond, ce pasteur. Oui, il est fou. Il est fou d'amour. Et nous voyons bien quel est le fruit de cette compassion qui vient guérir nos cœurs endoloris. C'est le fruit par excellence qui est aussi le vœu le plus beau que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Shalom, c'est la paix. La paix. La paix qui est le signe même de l'harmonie retrouvée entre l'homme et son Dieu. Des hommes entre eux. Des hommes et du milieu dans lequel Dieu les a déposés. La création. C'est cette paix plénière que Jésus vient apporter. Et nous savons bien, intuitivement, et à quel point nous le savons, combien elle répond exactement au désir le plus profond de nos cœurs. Alors apprenons à nous laisser simplement regarder par celui dont le regard, dont les yeux sont chargés d'une telle compassion, une compassion qui n'est pas une sorte de regard supérieur depuis en haut. Non, Dieu ne sait pas faire cela, car cela c'est le mépris. Non, il s'est fait l'un des nôtres, et c'est pourquoi nous pouvons supporter, non seulement supporter, mais appeler ce regard de bonté sur nous.